Bonjour à tous et bienvenue dans Midlife, le podcast. Ici, on rencontre des personnalités très différentes à mi-parcours, des artistes, des bienveillants, des faiseurs, des spécialistes, des citoyens, des abîmés, des éclairés, avec en commun cette envie de faire de son mieux, de tenter son changement, d'être audacieux, parfois désobéissant, et de prendre un instant pour partager son expérience, tout simplement. Je suis Carole Mathieu Castelli, j'adore raconter et écouter les belles histoires. Aujourd'hui, je reçois Sylvia Kahn, comédienne, formatrice et auteure de nombreux spectacles et ouvrages, dont « Mon ado est un gros naze, mais je l'aime », vendu à plus de 50 000 exemplaires. J'avais envie d'échanger avec Sylvia car c'est à 50 ans, à la mort de son père, qu'elle a quitté son super poste de directrice des magazines chez TF1 pour réaliser son rêve, écrire et jouer un seul en scène. C'est à partir de ce changement de route qu'elle a tracé un chemin plus personnel et s'est ouverte à des expériences artistiques incroyables dans l'écriture et en tant que comédienne avec des artistes tels que Stéphane Brisé, Claude Lelouch, Eddie Mitchell ou Johnny Hallyday. Vous êtes dans la saison 2 de Midlife, le podcast. C'est parti pour le road movie de Sylvia Kahn. Bonjour Sylvia.
Bonjour.
Alors pour commencer, j'aimerais savoir un petit peu ce que vous évoque le midlife.
Si on me dit ça comme ça dans la rue, qu'est-ce que ça vous évoque, à part que ça, c'est le milieu de la vie et que je me dis, bon, ben, j'ai 64 multiplié par 2 égale et je retiens 4. Je me dis, bon, j'ai quand même dépassé le midlife. Voilà, c'est tout. Ça m'évoque rien, on va dire, en brut, comme ça.
Est-ce que vous, l'âge, justement, a été quelque chose d'important dans vos choix de vie ou alors pas du tout?
J'ai été obligée de faire des changements de vie très vite parce qu'en fait, je voulais être psychologue. J'ai donc été à Paris 10 Nanterre et j'ai eu mon diplôme là-bas. Et Macron, qui n'était pas encore né quasiment, si je calcule bien, avait raison. J'ai dû traverser la rue tout de suite parce que je n'ai pas trouvé de travail avec mon diplôme. Bon, donc déjà là, j'ai commencé déjà à bifurquer. Et toute ma vie professionnelle est effectivement faite de bifurcation, de changement, pas toujours lié à l'âge, mais je dirais que j'ai commencé souvent des boulots tard par rapport à mon âge, comme par exemple travailler à la télé. J'ai quand même commencé à 40 ans, c'est très très tard. Et j'ai commencé à penser à la vie et à ce que je vais faire de ma vie à 40 ans. Vraiment, je me suis dit, j'ai fait ma crise de la quarantaine, quoi, en disant, oula, 40 multiplié par 2 égale 80, au secours, il va falloir que je me bouge là parce que ça va vite. Et à 50 ans, si j'ai changé de vie, ce n'est pas uniquement parce que j'ai eu 50, même si je pense que inconsciemment ça a joué, c'est qu'en fait, mon père est mort à un âge tout à fait normal et dans des conditions normales. Il avait 90 ans et mon père était un grand monsieur du théâtre et de la télévision, puisque mon père, c'est Jean Canol. Il était auteur dramatique très connu dans les années 60, 70, 80. Il remplissait les salles de théâtre. Un exemple, La Jument du Roi, un an au Théâtre de Paris complet. Et puis, c'est lui, entre autres, qui a créé Le Temps des Copains avec Henri Tizot en 1961, produit par Telle France, et qui a été le feuilleton à succès où j'ai retrouvé, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, un papier qui disait « Le Temps des Copains, l'ancêtre de Friends ». Un petit peu la classe, je me la suis racontée grave sur les réseaux sociaux. Et j'avais déjà des articles qui disaient que les gens étaient tellement suspendus à l'aventure de ces trois garçons qu'ils quittaient leur travail. Les médecins, par exemple, fermaient leur cabinet, allaient voir l'émission sur la une, hein, évidemment, et ils revenaient 20 minutes ou 30 minutes après pour s'occuper de leurs patients. Donc, quand mon père est mort, comme mon père était quelqu'un de génial, génial à tout niveau, professionnel et personnel, et que j'avais peur de le décevoir, j'ai jamais osé dire je veux écrire, je veux jouer. C'était pas possible en fait, parce que si jamais j'étais mauvaise ou s'il m'avait trouvée mauvaise, j'en serais morte de honte, quoi, et de chagrin. Et puis ma mère, qui était aussi, alors entre guillemets, une intellectuelle, puisque elle avait fait Sciences Po avec Badinter, elle avait une licence de droit, une licence de lettres. Elle aimait pas trop les comédiens, surtout les comédiennes. Je crois que mon père devait les aimer un peu trop. Et du coup, dire à ma mère qui trouvait que les comédiennes étaient idiotes, comme moi-même, elle ne me trouvait pas très futée, j'ai jamais osé dire à mes parents, avant 50 ans, bon, bah, là, j'ai envie de décrire et de jouer. Quand papa est mort, j'étais à TF1 à ce moment-là, et le soir de sa mort, j'ai dit, bon, bah voilà, j'y vais. Je laisse tomber TF1 dans 18 mois, en gros, dans 15 mois, parce que je venais d'arriver, ça faisait même pas, oui, ça faisait 8 mois que j'étais là-bas. Je me disais, ça se fait pas, les laisser tomber, alors que je viens d'entamer une grille, de faire mes propositions sur la ligne éditoriale. Mais je les ai prévenus, je leur ai dit, écoutez, voilà, je mets tout en route et je pars dans, voilà, 15 mois ou 18 mois. Je crois qu'ils m'ont pas trop cru, mais c'était vraiment la réalité. Et ce changement, à 50 ans, là, pour le coup, j'ai réalisé que il fallait le faire. Quand je dis souvent à mes amis qui me disaient, waouh, quel courage, je dis, ah non, 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 alors je vous rassure tout de suite, hein, il n'y a aucun courage là-dedans, je suis obligée. Je suis obligée d'y aller là. Et après, j'ai réalisé que j'avais 50 ans, parce que l'âge n'a jamais eu beaucoup d'importance pour moi. D'abord, j'ai toujours été très en retard. Ma mère disait de moi, jusqu'à la fin, elle a dit, tu es enfantine, ce qui n'est pas faux. Et j'avais toujours l'impression d'être en retard par rapport aux gens, des choses que je vivais. Je me disais, non, mais attends, là, tu réagis comme quelqu'un qui a 25 ans alors que tu en as 40. Hein, c'est quoi l'idée? Donc, je pense qu'en fait, l'âge n'a jamais vraiment été important, sauf là, où là, il y avait double truc. Mort de papa, donc libéré, délivré, même si j'aimais tellement mon père, hein, plus. Ah ouais, non, mais quand même, tu as 50 ans. Donc, si tu veux monter sur les planches, faire ton one et machin, faut y aller là. Faut que tu te bouges, hein, parce que voilà, maintenant, aucun regret d'avoir commencé aussi tard.
Le fait d'avoir tant attendu, d'avoir attendu ce moment, est-ce qu'à un moment donné, vous avez regretté d'avoir attendu? Et comme en plus, il y a eu des belles choses qui se sont passées pour vous, est-ce que vous avez regretté même de ne pas avoir pu montrer à votre père?
Je n'ai jamais regretté de ne pas avoir pu montrer à mon père. Par contre, quand j'ai commencé à écrire les livres, Mon ado est un gros naze était le premier. C'est ma mère qui a corrigé mon livre, elle corrigeait ceux de mon père. Et j'ai senti, oh, c'est pas un truc paranormal, c'est un truc psychologique évidemment pour moi, mais j'ai senti que mon père était là et m'aidait. Et en fait, souvent quand on écrit, le lendemain, on se dit, ah, oh, elle est vachement bien cette page, qui a bien pu l'écrire à ma place? Et voilà, donc non. Bon, je pense que mes parents veillent sur moi d'une certaine façon, en tout cas dans ma tête. Je pense qu'ils sont fiers de ce que je fais. Et quand je pense qu'ils ne sont pas fiers, j'arrête le truc. Je me dis, c'est pas bon. La question d'avant, c'était, est-ce que vous avez regretté d'avoir fait si tard?
Oui, de vous être autorisé si tard.
Non. Je crois énormément au parcours de vie. On vous ouvre une porte, on en ferme une autre. Il y a un chemin à prendre. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est pas le bon? Qu'est-ce que je fais de ce chemin? Moi, je pense que j'ai suivi le chemin que je devais faire. Un, des études inconsciemment pour que ma mère cesse de penser que j'étais une idiote. Parce que si j'avais démarré en tant que comédienne à 18 ans, là, ça aurait été un peu chaud. Deux, changer de métier. J'ai fait que des métiers qui m'ont demandé soit d'utiliser ce que j'avais appris en psycho, soit la créativité. J'ai lancé des gens au lieu de me lancer moi. J'adorais trouver des talents comme Valérie Damidot, comme Plaza, Marc-Emmanuel pour TF1, Christina Cordula. Et je ne l'ai même pas fait exprès, je les ai même lancés au théâtre pour Valérie et Plaza. Je dis non mais, et je viens de m'en rendre là il y a 3 mois. Comme toi, tu ne le faisais pas. Ben, inconsciemment, tu disais, allez, on y va. Et ensuite, je ne sais plus s'il y avait une autre question, c'était au tout début.
Finalement, aucun regret et finalement, oui, c'est arrivé au bon moment.
Aucun. Et c'est arrivé, une de mes copines m'a dit, tu te rends compte, j'ai attendu que mon père parte pour le déclic, allez, zou, on y va. Elle m'a dit, il t'a fait un beau cadeau de départ. Et cette phrase m'a vraiment permis de laisser partir mon père sans tristesse, sans aucun regret de rien. Et puis, comme il est mort dans de bonnes conditions, ça s'est plutôt bien passé dans ma tête. Non, aucun regret. Tous les métiers que j'ai faits, je les ai adorés. J'ai quand même fait du consulting chez Telle France. Quand je suis arrivée devant la porte de l'immeuble et que j'ai vu écrit Telle France, j'ai revu le CV de mon père. Le temps des copains, 1961, Jean Canol, Telle France. Mais au secours, je me suis dit, mais waouh, ça fout la trouille. Voilà.
Non, bah c'est super. Et le du coup, qu'est-ce que vous faisiez avant 40 ans, avant de rentrer en production télé?
Après mes études de psycho, j'ai bossé dans une agence qui faisait de la promotion, genre on créait des slogans, genre trois poissons pour le prix de je sais pas combien. On faisait des campagnes de promo. Après, je suis rentrée en événementiel, où là, j'ai tellement adoré ce métier, qui pour moi n'était pas compatible avec mes bébés. Donc, il a bien fallu qu'à un moment je m'arrête parce que j'ai eu Yaël, et j'ai deux enfants, Yaël et Nathan. Et là, je me disais, non, mais tu peux pas être à 4 heures du matin avec ton talkie-walkie à faire l'imbécile. Alors que ton bébé, il dort et que tu vas pas le voir demain matin. C'est pas possible. Donc, du coup, j'ai fait de l'événementiel pendant 8 ans. Après, je me suis mise en freelance. J'ai commencé vraiment, alors là, à approcher la télé en écrivant des concepts que je n'ai pas vendus d'ailleurs. J'ai commencé à faire de la formation. Donc, j'avais 30 ans à ce moment-là, hein. Et donc, je formais des gens à gérer les clients difficiles. Je ne sais même plus les thèmes. Enfin, j'adorais. En 90, je suis rentrée dans une boîte de prod, la Citrouille, pour être rédactrice-chef d'un programme court sur le sport où on interviewait des enfants sur une image de sport. Exemple, Saga Africa. On leur montrait l'image, donc les enfants de 5 à 18 ans, et on leur disait, qu'est-ce que ça t'évoque? Je cite celle-là parce qu'il y a un petit garçon, on s'y attendait pas, qui a dit: moi, je trouve que c'est un petit peu exagéré, le Saga Africa. Et alors que l'on trouve cette image dément, pas du tout exagérée, quoi. Et bon, voilà, ils avaient toujours des réponses assez délirantes. Et après les productions de la Citrouille, j'ai été, je ne sais plus comment, directement chez Mol. Bon, j'ai eu une chance inouïe avec eux, parce que Stéphane Courbie et sa femme, qui était patronne d'une émission qui s'appelait Moment de vérité avec Laurent Boyer, m'a embauchée en fait pour me demander que je la remplace 3 mois après mon arrivée parce qu'elle était enceinte. Et moi, j'ai répondu, mais je ne suis pas productrice, hein, je suis journaliste. Genre, on est sûr que tu sauras le faire, si on veut, on peut. Et cette phrase me suit et me suivra jusqu'à ma mort parce qu'à chaque fois que je me pose une question sur un job, je me dis, si on veut, on peut. Et j'y vais. Donc j'ai fait ça. Après, j'ai été rédac chef à la Starac 1, la quotidienne au Château. Je me suis occupée de 60 jours, 60 nuits sur Canal+, avec comme patronne Alexia Laroche-Joubert, le bac blanc avec Christophe de Chavannes et Carole Rousseau. Et puis, j'étais quand même un peu fatiguée après tout ça et j'avais envie de changer. Donc, je me suis débrouillée pour rentrer à M6. Ça tombait bien parce que je m'entendais bien avec Laurent Boyer. J'avais donc des interlocuteurs qui s'appelaient à l'époque Yann Gouazampi et Florence Duhaillot. Donc j'ai appelé Florence Duhaillot, qui était ma cliente. Je lui ai dit, écoute, je veux bouger, j'aimerais bien tester le boulot en chaîne. Oh, elle me dit, ça tombe hyper bien, je quitte mon job, donc est-ce que tu veux me remplacer? Genre la fille qui a du bol quand même. Hein. Bah oui. Une fois là-bas, je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de responsabilités par rapport à ce que j'avais en démol. Donc je me suis dit, oh là là, j'ai fait une boulette. Et finalement, c'est cette fille qui m'a poussée pendant des mois à demander le poste de directrice des magazines à Thomas Valentin, le numéro 2 donc, de la chaîne. Et donc je suis allée le voir et je lui ai dit, bah voilà, je suis venue te voir parce que je pense que l'intérim de la direction des magazines ne peut pas durer et que tu es en face de toi, ta directrice des magazines, tu ne sais pas pourquoi, mais moi je vais te le dire. Je ne vous dis pas qu'il m'a dit tout de suite, oui, voilà, c'est temps et assieds-toi dans ton nouveau bureau, mais presque,
Oui.
c'est-à-dire que j'ai demandé le poste vers novembre et finalement, Bibiane Godefroy, que j'avais contactée en même temps, qui m'a proposé le poste de directrice de ses productions, Thomas, du coup, il a dit oui. Voilà, donc je me suis retrouvée comme ça, directrice des magazines à M6. Alors là, j'ai voulu partir et faire mon one. Et puis, bah, j'étais pas prête du tout. Et donc, du coup, je suis allée à TF1. Et c'est là que toute l'histoire de ma vie de d'aujourd'hui pour le moment commence. Voilà.
Bon,
Voilà
bah,
mon CV.
vous êtes quand même à chaque fois allé vraiment chercher les choses. Et puis, c'est important d'aller mettre la petite graine, en fait, chez les interlocuteurs. Ça,
Oui.
c'est aussi une bonne méthode.
Ouais, mais quand même, c'est des rencontres aussi. Voilà, j'ai eu de la chance d'avoir ces opportunités.
Bien sûr, bien sûr. Mais après, c'est aussi toujours pareil, c'est le bon timing. C'est pas mal d'événements qui font que
Voilà,
le
c'est
bon
aussi.
moment, quoi. Le timing est très important.
Oui, je suis d'accord, ça.
Finalement, on se rend compte aussi que souvent, les gens espèrent avoir en face d'eux quelqu'un qui peut faire le job, quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. C'est ça que je trouve intéressant. Et c'est vrai qu'à cette époque, M6, en plus, c'était. Enfin, moi, j'étais chez M6 pile à cette période. Et moi, alors moi, c'était différent parce que j'étais comédienne. Je suis arrivée chez M6 en tant qu'assistante du département disque chez M6 Interaction. Et j'ai jamais fait ce job. On m'a embauchée, mais j'ai jamais fait ce job. Et en fait, très vite, pareil, j'ai eu l'opportunité. Je suis allée voir en disant, voilà, c'est le début des contenus. J'ai dit, achetez-moi une caméra. J'ai fait de la mise en scène. Formez-moi et je vais vous faire du contenu pour les chanteurs en fait dont ils s'occupaient. Et pareil, c'était une époque où ils donnaient vraiment la chance puisque ben, même pas un mois après, j'avais une caméra, j'étais formée et ils m'ont envoyé tourner partout dans le monde pendant 4 ans quoi. C'était vraiment effervescent quoi.
Dingue, dingue.
Après ces 15 ans en tant que productrice, directrice des programmes et des magazines dans ces différentes chaînes, vous avez parlé justement de vos 50 ans, du départ de votre père qui vous a quelque part donné l'autorisation et fait comme vous avez dit, vous a fait ce cadeau. Quand on a tant attendu, qu'est-ce que vous aviez envie de dire? Qu'est-ce que vous aviez envie d'écrire? Vous étiez comment à 50 ans?
Ben, en fait, mon père est mort. Le lendemain, j'ai dit, ou le soir même, j'ai dit, j'arrête et je fais mon one. C'est ce que j'ai dit tout de suite. C'est pourtant pas par le one que j'ai commencé parce que j'ai eu d'autres opportunités pour tourner. C'était très bizarre parce que j'étais même pas angoissée alors que je suis quelqu'un d'angoissé. J'ai quand même quitté un job, on va pas se la raconter, hyper bien payé où je payais beaucoup, beaucoup d'impôts. Donc, merci mon Dieu. En fait, quand j'ai quitté TF1, je sais pas, c'est venu tout seul, quoi. Enfin, non, ça, oh, ça fait hyper prétentieux, c'est horrible, mais je suis pas du tout prétentieuse, mais je vous jure, justement, j'avais attendu tellement longtemps d'écrire ce truc-là, bah, que toutes les idées qui n'étaient sûrement pas toutes bonnes, mais en tout cas qui, moi, me faisaient rire, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est venu comme ça. La seule chose qui m'angoissait un peu, quand j'étais divorcée, que j'avais pas de pension, bah, on devient un peu plus pauvre quand on divorce, en fait, hein, parce que bah, on a deux bagnoles, on a deux apparts, on a voilà. Et je me disais, bon, j'ai fait un truc, alors que cette épée de Damoclès que mon père, à la fin de sa vie, ça a commencé vraiment à bien merder les bonnes, au moins 2 dizaines d'années de sa carrière. Ça marchait plus, il gagnait plus de sous. Alors que, il était vraiment au firmament des stars, je me suis dit, en fait, tu vas directement vers l'épée de Damoclès qui te fait peur. Donc, j'ai dû me convaincre pendant des mois que jamais je me retrouverais SDF, alors qu'au début, je disais, oh, un jour, je vais être SDF. Et puis après, je disais, non, j'irai vendre des chaussures chez André et on me prendra parce que je suis sûre que je suis très bonne dans la chaussure. L'histoire, c'était de ne pas arriver à, entre guillemets, nourrir et gâter mes enfants. Parce que moi, je n'ai pas besoin de grand-chose, qui était au-dessus de moi. Ça, c'était vraiment un stress. Sur le reste, je ne me suis jamais dit, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Je ne sais pas, c'était obligé, ce que je disais au début de l'interview. J'étais obligée d'y aller, quoi. Si je n'y allais pas, eh ben, qu'est-ce que je dirais sur mon lit de mort? Ben voilà, je suis aussi dans mon boulot et je n'ai pas réalisé mes rêves. Et réaliser ses rêves, s'il y a bien un truc, ça c'est complètement bateau ce que je dis, mais je m'en fous. S'il y a bien un truc qu'il faut pouvoir dire sur son lit de mort, c'est je t'aime, voilà, aux gens à qui éventuellement on l'aurait pas dit, ou t'es un connard à celui à qui on veut absolument le dire. Il faut pouvoir dire j'ai réalisé mes rêves. Et alors après, j'ai commencé, voilà, à cocher. C'est quoi mes rêves? En fait, je rêvais pas de tourner au cinéma, par exemple. Je voulais faire mon one, c'était une obsession. Et après, j'ai eu des propositions pour faire des lectures de théâtre et de tourner donc dans des films ou dans des séries. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Là, j'ai rien demandé. Bon, ça doit être normal. J'ai un peu cru au destin qui était tracé.
Oui, parce que juste pour rappeler ce qui vous est quand même arrivé, parce que c'est vrai que c'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire pendant que vous étiez en train d'écrire, j'imagine, ce seul en scène qui s'appelle donc Seul et alors, vous avez tourné quand même dans deux gros longs métrages, Quelques heures de printemps de Stéphane Brisé et Salaud, on t'aime de Claude Lelouch avec Eddy Mitchell, dont vous étiez l'épouse,
Et
et
Johnny,
Johnny Hallyday.
voilà.
Donc c'est pas rien,
Non, mais
c'est-à-dire
c'est
qu'à
énorme.
50 ans, on change complètement d'orientation, de carrière, sans l'envisager d'ailleurs comme ça, puisque comme vous
Non.
disiez, vous répondez à quelque chose de vital et des tripes, et finalement il vous
Et
arrive
puis
ça.
c'était le théâtre, mon truc. Le truc est fou, c'est qu'en fait, j'avais une amie qui était. Enfin, j'étais devenue amie avec ma rédactrice chef de 60 jours, 60 nuits. Et elle avait épousé Stéphane Brisé, bon, dont je me foutais complètement au départ, hein, je ne sais pas qui c'était, quoi. Ils ont deux enfants, ils se séparent. Bon, bah, le temps qu'ils se séparent, les enfants ont 3 ans. Et moi, j'arrive sur le marché des comédiennes, on mange une salade à Boulogne-Billancourt. Elle me dit, alors quoi de neuf? J'écoute, j'ai fait des lectures pour le théâtre, bon, c'est dingue, mais j'écris mon one, et pas de problème, c'est génial, j'ai un peur, mais bon, ok, on verra. Comme depuis que j'avais 20 ans, tout le monde me disait, ah, t'es tellement drôle, tu devrais faire du théâtre. J'étais, oui, non, mais c'est pas parce que t'es drôle dans un dîner que tu vas faire rire les gens. Bon, bah, comme ça, au moins, mes copains m'emmerderont plus. Voilà, je l'ai fait, le one, ok? Donc, maintenant, vous me fouchez la paix. Donc, elle rentre chez elle, elle m'appelle le lendemain, elle me dit, écoute, Stéphane est venu chercher les enfants, Brisé, donc. Et puis, j'étais en train de peindre, de faire ton portrait. Elle était devenue portraitiste. Hein, c'est une histoire de fou, quoi. C'est-à-dire, la fille, elle est rédac chef. Moi, je suis au truc. Elle devient portraitiste. Elle épouse Stéphane Brisé. Il divorce. Il arrive. Il vient chercher les enfants. Ça, c'est un film aussi, hein. Et il dit, c'est qui cette fille? Il dit, bah, c'est une amie, Sylvia Kahn. Il y avait ma photo, puisqu'elle faisait mon portrait. Il dit, elle fait quoi? Ah, bah, justement, elle change de vie, là. Elle est devenue comédienne, genre, depuis 5 minutes, quoi. Et tu crois qu'elle jouerait dans mon film? Oh, elle lui dit, écoute, j'en sais rien, moi, tiens, voilà son téléphone. Ça s'est passé comme ça. Et moi, quand il m'a appelé, j'étais totalement. Alors, au début, hyper. Ouais, bonjour, ouais, bien sûr, oui, c'est super. Et tu veux pas faire mon film? Je ne sais pas, oui. Enfin, le casting, hein, parce que je vais caster des 10 comédiennes. D'accord. Je raccroche, je dis, qu'est-ce que j'ai fait là? J'avais dit que je voulais faire du cinéma. Mais j'ai peur, donc j'ai passé beaucoup de temps aux toilettes, parce que je suis une vraie traqueuse. Et voilà, il m'a dit une phrase après mon cast, il m'a dit, je ne sais pas si ça sera toi le rôle, mais sache-le. Tu as énormément de talent et tu es une grande comédienne. J'ai éclaté de rire et il m'a dit, c'est pas drôle. Et il m'a pas. Et alors bon, il m'appelle 3 mois après. Il me dit, ben voilà, Sylvia, t'as le rôle. Tout le monde t'a trouvé formidable. C'est atroce cette pression. Du coup, j'aurais préféré qu'il m'appelle pas en fait à ce moment-là. Et il me dit, Vincent, t'as trouvé formidable. Je lui dis, il doit me parler de son assistant réal ou du je sais pas qui. Hein. Je lui dis, Vincent, oui. Il me dit, ah, mais je t'ai pas dit, non, ben, non, tu m'as pas dit quoi. Mais c'est, la réplique, c'est Vincent Lindon qui va te la donner. Ah ouais. Ok, je vais chez moi, là. Pleurer un coup, et je reviens. Et quand j'ai rencontré Lindon, alors moi, il y a peu de gens qui m'impressionnent parce que j'étais beaucoup habituée aux grands comédiens chez moi et tout, avec mon père. Mais là, Vincent Lindon, waouh.
Et pour préciser, en plus, c'est une scène très intense, puisque vous êtes médecin et vous êtes face à lui pendant de longues minutes. Et en plus, c'est filmé pas comme un plan séquence, mais ça prend vraiment le temps. On a vraiment le temps
Si,
des réactions. Et en fait, vous êtes en train de lui
oui.
annoncer la maladie de sa mère. Et c'est une scène en
Ouais, je
plus
suis
très
cancérologue.
importante du film, quoi.
Oui, c'était un truc de fou. Et pour la petite anecdote, avec Stéphane Brisé, on a 45 minutes pour ne pas apprendre son texte, mais le savoir. Autant dire que je ne le savais pas trop quand je suis arrivée sur le truc, quoi. Vincent Lindon a été merveilleux avec moi. Il m'a hyper encouragée. Il m'a félicité avec son doigt, comme ça, son petit pouce, après chaque scène. Mais j'oubliais toujours un truc. Le nom d'un médicament, le truc qui était monté au cerveau. Et donc, au bout d'un moment, je dis à l'assistante, je lui dis, mais je vais pas y arriver. J'ai pas eu 45 minutes, j'ai eu 20 minutes parce que maquillage, coiffure, conneries. Moi, je porte des lunettes, j'ai pas pu apprendre le texte. Puis surtout, je comprends rien de ce que je dis. Alors, et là, je me suis dit, bah voilà, ta carrière, elle est finie. Tu vas être remplacée, tu vas faire perdre des milliers d'euros à toutes ces bonnes personnes. Oh mon Dieu, pourquoi? Et donc, elle est allée voir. Le réal, elle lui a expliqué. On a arrêté le tournage pour moi. Bon, ce qui était deuxièmement encore horrible. J'avais envie de pleurer, quoi. On arrête pour Sylvia Kahn. Ouais, super. Là, il m'a dit, c'est quoi le problème? J'ai dit, mais le problème, c'est que je comprends pas ce que je dis. Donc, comme elle a fait 10 ans de médecine, la personne, au moins. Hein. Donc là, il m'a expliqué la maladie, comme ça, comme on l'explique à un étudiant. Il m'a dit, vas-y, redis-moi, c'est quoi la maladie? Sans jouer, surtout, ne joue pas. OK? Allez, je te le refais, d'accord. Et patati et patata. Et ça a marché. Et 3 jours après, j'ai joué la deuxième scène où là, c'est Hélène Vincent que je ne peux pas soigner puisque je n'y arrive pas et que le traitement ne fonctionne pas parce que c'est trop tard, qui m'annonce qu'elle va faire le suicide assisté. Et j'étais, en tant que médecin, là, j'étais vraiment médecin, déjà avec Vincent, mais avec Hélène Vincent, j'étais médecin désespéré, quoi. Inutile, impuissant. Et c'était hyper fort, il y avait beaucoup d'émotions. Stéphane Brisé, c'est vraiment de la haute couture. Donc, Vincent me disait, t'inquiète pas, hein, t'as l'impression que tu joues tout le temps pareil, mais il y a un petit truc en plus que tu donnes, et c'est à ce moment-là qu'il va dire, elle est bonne la prise. On a tourné à chaque fois toutes les prises en plan séquence.
D'accord.
Oh!
Ok. Bon, en tout cas, c'est formidable de commencer comme ça, avec ces personnes-là, quoi. C'est formidable. Et alors, comment ça s'est passé
Et
pour
Claude
vous?
Lelouch,
Ouais.
ben là, l'histoire est encore plus dingue. On pourrait penser que j'invente, mais j'ai des témoins. Donc, quand le film de Brisé sort, alors j'invite mes potes avec le pop-corn, je paye les billets, tout ça, on va au cinéma voir le film. J'avais mis des photos du tournage chez moi, je fais un petit apéro rigolo, voilà. Et puis, il y a une de mes amies qui me dit, bon, alors, next. Je dis, bah, next, on se détend. Déjà, si ça se trouve, je vais tourner un film dans ma vie, hein. Moi, je connais bien ce métier, donc je sais que ça peut faire rien pendant des années. Elle me dit, mais t'as pas une envie? Et je ne sais pas pourquoi, parce que j'aime beaucoup ce réalisateur, mais ça n'est pas obligatoirement mon préféré. Bah tiens, je vais écrire à Claude Lelouch. Elle me dit, d'accord, bon, bah oui. Donc le soir, je décroche deux photos du film, je me mets à mon petit bureau, j'allume le JT parce que j'aime bien de la mèche. Bon, il se trouve que c'était Marie Drucker. Bon, je reste quand même, hein, parce que j'aime bien le JT de France 2. Et l'invité, c'était Claude Lelouch. Alors que je m'apprêtais à écrire le truc quand même. Je me dis, oula, ok. Le JT commence. Alors, je commence ma petite lettre. Je dis, je vais mettre 10 lignes. Hein. Je vais mettre, je suis la fille de mon père. J'ai changé de vie à 50 ans. J'ai tourné avec Stéphane Brisé, Docteur Mathieu, dans quelques heures de printemps. Et puis là, bah, je n'avais pas tout à fait fini, je n'avais pas encore mis le nom de mon agent, ni je t'embrasse et salut. Et là, elle dit, bon alors, Paul Lelouch, là, il fait son interview, il dit, je vais faire 3 films avec Johnny, avec Belmondo, et puis un autre avec Nathalie Baye. Bon, je me dis, oh, bah, il a des projets, Pépère, c'est super. J'y crois pas une seconde, hein, c'est pour moi ce que je suis en train de faire et c'est n'importe quoi. Et elle lui dit, bah, merci, monsieur Lelouch. Attendez, attendez, il dit comme ça. Aller voir le plus beau film de l'année, Quelques heures de printemps de Stéphane Brisé.
Incroyable.
Là, je me dis, non, mais
Qu'est-ce
qui
qui
est
se
au-dessus,
passe?
quoi? Qu'est-ce
Ah
qui
ouais,
s'est
là, c'est
passé, quoi?
incroyable, incroyable.
J'ai envoyé le truc, hein, et puis voilà, je suis passée à autre chose, j'ai fait ma vie, quoi. J'ai commencé mon One et tout ça. Et puis un jour, bah, y a le téléphone sonne et bonjour, ici les films 13. Je dis, oh merde, oh non, 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 j'ai trop peur. J'avais tellement eu peur sur le Brisé. Oh, j'avais perdu 3 kilos en 2 scènes, hein, quand même. Donc, il dit voilà. Et là, en plus, la fille très gentille me dit, Claude Lelouch aimerait vous voir en casting, himself, quoi. Là, on veut disparaître sous terre. Hein, c'est oui, mais parce que là, en fait, je suis en train de faire mon one. Enfin, genre, on s'en fout, en fait, hein, de ce que tu fais, Sylvia. Alors, est-ce que vous pouvez venir pile le lendemain du jour où je faisais le truc pour la presse? Après, je terminais tard quand même, puis gros stress, quoi. C'est genre la deuxième ou troisième fois que je jouais. J'avais les médias qui étaient là et le lendemain, je devais être là à 9 h, quoi. Bon. Je me dis, écoute, Sylvia, tu sais quoi? C'est génial. C'est une expérience. Tu vas rencontrer un maître en cinéma. J'avais pas imaginé à quel point c'était énorme ce que j'ai vécu. On était dans sa grande salle de projection avenue Hoche, et nous a parlé du cinéma. Moi, j'étais mais HS de HS, les cernes jusque-là, mais j'étais comme ça, quoi, dans un enchantement, Disneyland. Et voilà, le cinéma ceci, et quand je retournais avec Girardot, elle nous a dit, on a fait, je suis ok. Et dit, voilà, les gros rôles sont distribués, mais il y a plein de jolis petits rôles, vraiment. Donc, soyez contents d'être là. Il y avait tous les âges, puisqu'il y avait des enfants, des ados, des gens de mon âge et tout. Enfin, je devais être la plus âgée, en gros. Et il dit, voilà ce qu'on va faire. Vous allez me faire 1 minute ou une trente, je ne sais plus, d'impro sur ce que vous avez fait hier. Et dans votre impro, vous allez mettre « Je vous aime et mon père est un salaud ». D'accord? Je saurai si vous mentez et si vous m'inventez une soirée, parce que je verrai que vous mentez. OK? Vous sortez tous, je viens vous chercher un par un. Bah, je dis OK, bah, de toute façon, ça tombe bien, parce que dans mon one, je dis à toutes les femmes qui sont seules et qui sont hyper malheureuses, je vous aime. Et je parle de mon père, bon, je sais plus ce que je dis. Et donc, si je fais ce métier, c'est grâce à mon père. Donc, mon père n'est pas un salaud. Voilà, cette phrase, je ne peux pas la dire. Donc, je fais mon impro, mais alors, même pas peur, hein, tellement je suis en dehors de mon corps, tellement je suis fatiguée, ça n'a pas d'importance. Déjà, c'est génial d'être là. Voilà. La récompense, elle est là. J'ai les images de ce truc où, à la fin, parce que c'est son fils, un de ses enfants qui filmait, il arrive vers moi, il me prend les bras comme ça, et il me dit, vous êtes formidable, vous êtes dans mon prochain film. Bon, là, où est la caméra cachée dans ma tête? Là, je dis, ah bon, mais vous déconnez? Je dis, je veux dire, vous plaisantez? Enfin, je veux dire, pourquoi vous me prenez? Là, c'est pétage de plomb, hein, total, tellement fatigué. Et lui, il est mort de rire, il est trop cool, il est rigolo. Il dit, bah, parce que vous êtes tout ce que j'aime. Il y a la sensibilité, il y a la drôlerie, il y a le naturel, c'est ce que je veux chez mes comédiens. Il se tourne vers son assistant. Il dit, est-ce qu'on a les coordonnées de Sylvia Kahn? Et là, le mec répond, et là, c'était mon heure de gloire, genre, je m'appelle Catherine Deneuve, s'il te plaît. Il dit, oui, c'était le docteur Mathieu dans quelques heures de printemps. Bah oui. s'il te plaît, moi. Merci. Donc, je suis ressortie de là, complètement chancelante. Hein. J'ai fait, je vais juste le dire à ma mère, au cas où j'aurais vécu un truc qui est en dehors de l'univers et où il n'y avait que moi, en fait, et où ça n'existe pas. Et après, je suis passée à autre chose. J'en ai parlé à personne. Et finalement, bah, 3 mois après, il m'a appelée et il m'a dit, je suis très embêtée. J'ai fait, ah merde, il est cool. Il m'a appelée pour me dire que c'est non. Dans son bureau, je regardais les prix, les machins, les palmes d'or, les trucs. Et puis bon, il me dit, oh, je suis embêtée parce que j'ai deux rôles à vous proposer, mais je n'ai pas choisi. Et là, mon cerveau a totalement vrillé, je n'entendais plus sa voix. J'étais à Sylvia, reviens. Sylvia, concentre-toi. C'est pas Claude Lelouch, c'est là, il est en train de te briefer quand même, de te raconter le film, une partie, il fait ça exprès. Hein. Il raconte pas tout. Et finalement, j'ai eu le culot à la fin, il me dit, voilà. Je lui dis, alors écoutez, Claude, on ne se connaît pas, hein. Mais bon, je suis là avec vous dans votre bureau. Vous me dites, j'ai deux rôles pour vous. Donc, soit c'est l'amie de Sandrine Bonner, qui a une agence immobilière ou je ne sais pas quoi, soit la femme d'Eddie Mitchell. Honnêtement, je pense que je serais très bien en femme d'Eddie Mitchell. Et encore une fois, sors de ce corps, ce n'est pas toi qui parles. Je suis vachement timide en plus, puis en lui, c'est quand même un monument, quoi. Et je dis, bon, je pense que vous vous en foutez mon avis et je le comprends. Et finalement, il m'a choisi. Je pense que là, pour le coup, le plus beau souvenir pour l'instant, ever, de toute ma vie, de tout ce que j'ai fait. Parce que Johnny Hallyday, parce que Claude Lelouch. Voilà. On était à la montagne, c'était comme dans un rêve. J'étais totalement flippée. Hein. J'ai eu la chance d'avoir mon fils qui avait 15 ans à l'époque, parce qu'on tournait en été. Donc j'avais dit, est-ce que vous pouvez me donner les dates? Claude, pardon de vous demander ça, hein, c'est pas votre job, mais parce que j'ai un fils. Ah, oh, mais tu l'emmènes, il aura sa chambre, et puis il viendra sur le tournage. Et en fait, mon fils a bossé comme assistant régisseur, et il nous faisait des crêpes, et puis il allait chercher des moutons, je sais pas quoi. Et finalement, on est restés ensemble pendant 15 jours. Mais c'est inoubliable, ça, inoubliable. Johnny, c'était inoubliable, une gentillesse incroyable, et sa mort nous a bouleversés. On en parle souvent avec les copains du film, avec mon fils. Bien sûr que c'était pas un ami, mais moi, je suis allée 2 fois à la messe qui se joue à la Madeleine tous les jeudis. Hein. J'y suis allée parce que j'avais besoin d'être là, et c'était un show enfin, avec des chansons de Johnny, quoi. Le mec était organiste, là, et tout d'un coup, il s'est retrouvé dans un film, lui aussi, hein. C'était le film dans le film. Il y avait des sosies. Je me souviens qu'à un moment, je l'ai éclaté en sanglots, parce que vraiment, ce type était tellement attachant, tellement gentil avec mon fils aussi, une merveille. J'ai éclaté en sanglots, il y a deux gros rockers qui sont retournés. Ils avaient les blousons de Johnny, ils avaient les trucs, les machins. Ils m'ont pris comme ça dans leurs bras, ils m'ont dit, oh ouais, c'est dur, hein, madame.
Lunaire.
Voilà. Non, énorme,
Non.
énorme. Ouais, ça, c'était énorme.
Qu'est-ce qui s'est
C'est.
passé avec ce seul en scène du coup?
Alors, le seul en scène, ben, en fait, comment j'ai trouvé le beau Saint-Martin? Oui, j'écrivais des telenovelas qui passent le matin. Alors, j'en ai fait pour Arthur, pour Courbet, j'en ai fait pour TF1 Prod. En fait, c'est des petits cours de 26 minutes. Un jour, il y a eu un rendez-vous d'auteur, encore une rencontre. Et dans les auteurs, il y avait Céline Olinsky, qui était metteuse en scène et qui était maquée avec enfin, son mec, c'était un producteur, un petit producteur. Et elle a été fascinée par mon changement de vie. Parce qu'on se présentait, on faisait un tour de table. Je dis, non, mais la nana, elle est directrice des magazines. Genre, elle se dit, tiens, j'ai 50 ans, je vais être comédienne, quoi, et auteur. Et je lui dis, bah, écoute, j'écris mon one. Et elle me dit, bah, tu veux pas que je te mette en scène? Si, ça coûte combien? Mais zéro, quoi. D'accord. OK. Et c'est là que son mec et elle m'ont présenté au théâtre Beau-Saint-Martin. Ils m'ont pris sur un sketch parce que j'avais fait des petites scènes. Où il y a plusieurs gens qui jouent, hein, des plateaux d'artistes. J'avais testé mon spectacle. J'ai décidé de jouer 3 mois. Je savais que j'avais peu de chances de remplir plus que 3 mois une fois par semaine parce que j'avais pas de radio, j'avais pas de télé, je faisais pas de promo. Mais ça s'est hyper bien passé. Tous les gens d'M6 qui me connaissaient sont venus me voir jouer. Tous mes potes sont venus. Ils étaient là toutes les semaines, c'est l'enfer. Je leur disais, mais rentrez chez vous, arrêtez de venir me voir jouer. Ma fille était là tous les jeudis aussi. Voilà, mon fils est venu moins, mais il est venu, ma mère est venue, c'était complètement dingue. Et au bout de 3 mois, j'étais quasi en burn-out, hein, tellement ça avait été dur, tellement terrible seul en scène et tellement génial. Mais là, après, je me suis un peu reposée parce que c'était chaud, quoi. Et entre-temps, je crois que j'avais fait un petit rôle de prostituée dans Soda. Voilà, le truc de magie aussi.
Ouais, bah, fluide, finalement. Finalement, c'est que c'était le moment et que c'était fluide.
Ouais, et après, tout s'est arrêté du jour au lendemain en 2015, je crois, où là, je me suis dit, OK, donc la chance est passée, tu as su la prendre, et maintenant, on fait quoi? Donc, j'ai fait quasiment un an de radio gratuitement pour Isabelle Brest sur Sud Radio. C'était génial. J'ai appris énormément. J'ai écrit des bouquins. Voilà, mon ado est un gros naze, mon voisin est un gros naze, bienvenue à l'hôpital, mon ex est un gros naze, et ta sœur. Et puis après, il y a eu des petits rôles et des petites choses, et puis le théâtre qui a démarré en plein Covid.
Très bien. Alors juste, on va revenir un petit peu sur ce que vous avez écrit, surtout sur les ados, parce que c'est un sujet qui, dans cette période du midlife, est assez important, parce que souvent, on a des ados, justement, à cette période de la vie.
Oui.
C'est vrai que c'est un grand mystère. Et ce qui est super dans ce livre, justement, Mon ado est un gros naze, c'est qu'on sent la psychologue. Mais on sent aussi l'humour. Et c'est ça qui est pas mal. C'est un bon duo. Est-ce que vous pouvez me parler en deux mots de ce livre? Qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que c'est vraiment vos ados?
Alors oui, moi j'avais deux ados et mon co-auteur Laurence Thor, qui était mon ancien patron à TF1, avait deux ados. On déjeune, côte d'agneau haricots verts. Il me dit, ça serait sympa qu'on écrive un livre sur les ados. Moi je dis, ouais, parce qu'on parlait du PQ dans les toilettes qui s'amoncelait, on racontait nos enfants. Il dit, oh, tu sais quoi, on devrait écrire un livre sur les ados. Je fais, mais ouais, grave. Il me dit, et on l'appellerait, Mon ado est un gros naze. Je dis, c'est un peu dur. Il me dit, bah on rajoute, mais je l'aime. Voilà.
Tout simplement.
Ensuite, lui connaissait quelqu'un dans la boîte d'édition qui s'appelait Jungle, qui faisait que de la BD. Mais quand il a vu notre bouquin qui était écrit de A à Z, en fait, il a dit, oh, bah, je lance une collection. Et on en a vendu 50 000. Et les gens m'écrivaient sur des Facebook et des Insta et ce qu'on veut. Mais merci, vous m'avez sauvé la vie. J'ai vu que j'étais pas toute seule dans la mouise. Mais tellement, c'est tellement génial et machin. OK. Et puis là, comme il n'était plus en vente. je me suis bougée. J'ai envoyé un mail à 4 éditeurs, dont Elsa Lafont, qui m'a répondu en 2 heures, ce qui n'existe absolument jamais. Hein. On ne vous répond pas hein, en général. Et qui a dit, j'adore l'idée, pouvez-vous m'envoyer un PDF? Merde, est-ce que j'ai le PDF? J'ai envoyé le PDF, c'était le 14 mars, je m'en souviens, c'est l'anniversaire de ma petite sœur. On a sorti le livre le 5 octobre. Pareil, ça n'existe pas.
Et alors, qu'est-ce qui vous a le plus dans ce livre, justement? Est-ce que c'est le côté maman, le côté psy? Comment vous avez voulu finalement présenter les ados? Parce que c'est vrai que c'est un grand sujet quand on a 40, 50 ans. Est-ce que c'est plus la mère ou est-ce que vous avez essayé de leur retrouver des circonstances atténuantes?
On a balancé grave. Dans la pièce qui est issue du livre et qui s'appelle Comment survivre à mon ado, coécrite par les Gidouins, là, les ados, ils se reconnaissent plus parce qu'on est des deux côtés. Mais dans le livre, on a juste voulu se marrer, en fait. Hein. C'était pas intellectuel, notre truc. Hein. C'était tiens, on rigole, on s'amuse. Allez, on balance. Vas-y, l'eau précieuse. Vas-y, l'acné. Vas-y, la négociation, les bons de chantage. Voilà, on se balançait les idées. On écrivait dans une Dropbox. Et puis voilà, basta, 50 000. Bon, bah ok.
Mais en même temps, ça fait du bien parce que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours les saisir.
Voilà, ce livre, il dit juste, comme un livre de constat, mais pour rigoler. Mais finalement, ça aide les gens. Voilà, c'est ça qui est fou. Et les ados l'adorent. Les
Oui,
ados
c'est
le piquent
ça.
aux parents.
Et c'est ça qui est drôle, c'est que du coup, on peut en discuter en plus.
Oui. Oh, mais merci, j'ai pu vraiment me remettre en contact avec mon ado. Il est venu avec le livre. Il m'a dit, t'as vu quand même, maman, je fais pas la page 45. Et on a rigolé pendant 2 heures avec le bouquin. Bon, d'accord. Mais on s'attendait pas à ça du tout. Pas du tout, quoi. Et je suis très fière que Michel Lafon l'ait réédité. Pour moi, là, c'est une grande fierté.
Alors que ça a été quoi, vous, votre expérience d'ado?
Pas moi, mes ados à moi, bah, Nathan. Il est plutôt devenu post-ado, plutôt pénible après. Avant, voilà, un peu enfermé dans sa chambre et à faire pipi dans une bouteille d'eau parce qu'il avait la flemme d'aller aux toilettes. Donc, n'importe quoi. Sa chambre, un capharnaüm. Le lycée, une catastrophe. Et ma fille, qui était une plante, elle faisait déjà 1,77 m, elle en fait 1,80 m à 14 ans. Les seins dehors, la jupe juste en dessous de voilà, pareil. Ah mais non, mais quoi, mais nanana, machin, voilà. Moi j'ai eu vraiment du classique, hein. J'ai pas eu de trucs graves, heureusement. Mais voilà, j'ai eu quelques trucs qui sont dans le bouquin, oui.
Et finalement, ça
Donc,
correspondait à votre changement de vie? Comment ils l'ont pris, eux?
non mais eux ils prennent tout bien. Ils adorent tout ce que je fais, ou ils s'en foutent. C'est-à-dire que ils adorent et après, ils trouvent ça normal. Parfois, un jour, j'ai dit à mon fils, mais Nathan, tu te rends compte quand même que là, j'ai joué une pièce de théâtre et tout. Il me dit, maman, plus rien ne m'étonne de ta part. Ah, d'accord. Ils sont hyper accompagnants, hyper sympas.
Bon, en tout cas, j'engage tout le monde à lire ce livre parce que, en effet, bon, après, vous avez fait aussi la pièce de théâtre, mais c'est vrai que ce livre, je trouve que même pour cette histoire de négociation, de chantage, on se retrouve finalement à chaque page. C'est ça qui est pas mal et vraiment, on se sent moins seul. Bon, après, évidemment, vous avez décliné aussi d'autres choses, comme vous le disiez, mon ex est un gros naze, mon voisin est un gros naze, donc il y a de quoi, y a de quoi se marrer et en même temps. Avec beaucoup de dérision et d'autodérision, voire un peu ce qui nous entoure au quotidien. Et pour terminer, j'aimerais que vous me parliez, parce que finalement, votre chemin, il est quand même assez cohérent malgré tout. Actuellement, vous faites ces formations. Quand je dis cohérent, c'est que finalement, bah, c'est la psycho qui vous a emmené aussi, et la créativité, ces deux choses qui vous suivent depuis toujours, parce qu'il faut avoir cet
Mais
aspect
oui.
vraiment psycho pour pouvoir s'attaquer à certaines thématiques. Et en même temps, bah, c'est avec la créativité, ça donne un peu des objets qui sont peut-être un peu des ovnis pour certains, mais finalement qui tiennent la route, c'est la preuve qui plaise.
Oui, et puis bah, la formation, j'ai retrouvé mes envies d'aider les gens, d'apporter ma connaissance, mon écoute, et j'adore faire ce job. En plus, mon plus gros client, c'est l'œuvre des pupilles des pompiers, donc c'est magique. On s'adore, on travaille ensemble dans des conditions exceptionnelles. Voilà, il y a des jours où je fais rire au théâtre et puis il y a d'autres jours où je les fais rire, même si les sujets qu'on traite sont parfois lourds et que ce soit les veuves ou les pupilles, ils ont tous eu des vies qui n'étaient pas simples. Mais comme si tout était effectivement, comme vous dites, cohérent et où tout était bouclé, quoi. C'est bizarre. C'est bizarre, oui.
C'est bizarre, mais bon, voilà, ça se tient. Il y a quand même une ligne directrice. Bon, c'est vous, la ligne
Oui,
directrice,
oui.
évidemment. Et puis, c'est l'empathie que vous avez peut-être. Quand on a cette empathie, on peut faire de la formation et on peut être aussi proche des personnages, à la fois quand on les crée, mais aussi quand on les interprète. Donc, finalement, c'est
Oui,
vrai,
c'est vrai.
c'est plutôt cohérent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
D'avoir réalisé mes rêves, de d'y être allée, d'avoir fait des trucs complètement dingues dont je suis vraiment fière. Là, je coécris une pièce. Alors moi, une fois que les choses sont faites, j'ai plein de souvenirs, j'ai plein de photos, je garde tout, etc. Mais une fois que c'est fait, allez, je passe au suivant. Ce qui me rend heureuse, c'est d'avoir réussi à dépasser mes craintes de pas assurer devant mes parents. Voilà, je peux encore faire mieux, je peux encore beaucoup progresser. Et ce qui me rend heureuse, c'est d'avancer, c'est de créer. Voilà, et là, je coécris une pièce avec quelqu'un avec qui vraiment je voulais travailler. Je lui ai pitché la pièce en me disant, oh là là, si elle la veut, c'est génial. Et elle a trouvé le pitch top. Donc voilà, après, je me dis tous les jours, c'est bon, t'as pas trouvé de vaccin, hein, tu te calmes. J'ai envie de rester moi-même. J'ai pas changé, en fait. Les gens me le disent. Hein. Ils disent, t'as pas changé. Je dis, bah non, c'est pas parce que j'ai tourné avec Johnny Hallyday et que j'ai fait la prostituée dans Soda. Je vais me la raconter non plus. Hein. Mes parents étaient très très forts à tous les niveaux et ils étaient très humbles et ça c'est important pour moi. Et puis voilà, je suis contente d'être en vie, je suis contente d'avoir créé une famille. Je trouve que franchement, j'ai eu des chances, pas de la chance, mais des chances, des opportunités. Il faut que je continue, il faut que je me bouge un peu pour prospecter parce que ça je le fais pas. Mais je suis vraiment très heureuse de la vie que j'ai, aussi de liberté, d'angoisse aussi, hein, parce qu'il y a des mois où on ne travaille pas du tout. Il y a aussi des mois où si on ne veut pas travailler, on ne travaille pas. Et c'est bien. Ça change de ce que j'ai fait aussi avant. J'ai tout aimé dans ce que j'ai fait. Je trouve que c'est énorme.
Oui, c'est énorme. Un très beau parcours que celui de Sylvia Kahn. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous laisse toutes les références dans la description. Le podcast est réalisé par Macam Film et la musique Takayama composée par Niwell. Merci de partager et de mettre des avis 5 étoiles. Ça contribue à la vie du podcast. Et rejoignez-moi vite sur le compte Insta Midlife le podcast. Je vous embrasse fort et à très vite.